Sud Radio 10h midi, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le débat entre 11h moins le quart et midi. Ben, ils ont déjà commencé à parler. Il est là, Régis de Castelnau en studio. D'habitude, il est en Zoom et voilà, il a oublié les usages de la radio. Avocat, bonjour. Vous êtes avocat.
Bonjour,
vous avez un
Valérie.
Blog Vue du droit. Vous tweetez régulièrement aussi des choses très pertinentes, forcément. Vous avez publié Une justice politique aux éditions L'Artilleur et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Lucas Jakubowicz, bonjour.
Bonjour.
Journaliste politique, rédacteur en chef adjoint de Décideur Magazine. Et vous venez de publier, vous venez tout juste de me l'apporter, Un animal pour les gouverner tous, comment les dirigeants politiques exploitent les bêtes pour nous manipuler. Vous racontez quoi dans ce livre? Ça m'intéresse beaucoup.
Ah, ça,
hein.
C'est joli, ça.
Alors,
oui,
j'explique en fait une grosse ficelle de communication que tout le monde connaît, c'est-à-dire que les hommes politiques, dans les démocraties ou dans les dictatures, vont utiliser les animaux à des fins de communication personnelle. Tout le monde se dit, c'est de la grosse com' qui tâche, qui peut être assez stupide pour se faire prendre dans ce piège. La réponse, quand on voit le livre, c'est en fait pratiquement tout le monde. Et je révèle certains détails assez croustillants, notamment sur le président de la République. Petite anecdote, en fait, tout le monde parle de Nemo. En réalité, il y avait un autre chien avant Nemo. Le problème, c'est que c'était un dog argentin de pratiquement 100 kilos, avec un collier en fer, avec des limites des yeux rouges, qui s'appelait Figaro.
Ouais.
Donc, voilà.
Il a été abandonné sur le bord de l'autoroute.
Non, il a pas été abandonné, il a été exfiltré en début de campagne présidentielle.
Et parce que c'était pas un chien suffisamment présidentiel.
C'était pas le chien dû en même temps, hein. Surtout qu'il s'appelait Figaro.
Ouais.
Et dans ce contexte-là, deux mois après son accession au pouvoir, il a adopté Nemo dans une SPA.
Voilà, c'était plus... Bah, écoutez, je vais le lire et je vous en donnerai des nouvelles. David Corsero, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député MoDem du Val-d'Oise. Merci d'être avec nous, c'est une première.
Merci d'avoir
invité. Et Alexis Bachelet, bonjour.
Bonjour.
Maire adjoint à Colombes, ancien député PS, chef d'entreprise, bonjour à vous. Évidemment, aujourd'hui, on a décidé de rendre hommage à Jean-Paul Belmondo, 0826-300-300. Si vous aussi, vous avez envie de nous raconter votre Belmondo, ce sera notre tour de table. On va parler de cette quatrième nuit de violence à Corbeil-Essonnes, à la suite de l'arrestation d'un jeune, je mets des guillemets, violence urbaine contre les policiers, ça devient banal. On en parle finalement assez peu dans les médias. On va revenir sur Macron, président réformateur, la réforme des retraites avant ou après la présidentielle et puis les procès des attentats du 13 novembre. Que peut-on attendre de ce procès? On parle de tout cela avec vous. Commençons. Et si je commençais en fait avec un coup de gueule, à propos de Jean-Paul Belmondo directement, mais à propos de certains woke, ce qu'on appelle les woke, une certaine Colline Aeolia dit « On ne regrettera pas les films gênants de cette vieille France sexiste qui appartient à nos papas boomers beaufs que l'oubli progressiste se chargera de cancel par simple sélection culturelle ». Voilà, ça c'est un tweet. Et un autre de Papito de la Vega, Jean-Paul Belmondo, c'était déjà lequel, l'acteur blanc qui jouait dans des films où il n'y avait que des blancs, très peu pour moi, voilà où on en est aujourd'hui en France, ouais Lucas.
Alors j'attire l'attention des auditeurs sur les réseaux sociaux, il y a un genre à part entière qui consiste à parodier le langage woke.
Oui.
Alors, peut-être qu'il s'agit de contes parodiques, alors moi je suis bien placé pour le savoir, parce que je me suis fait rattraper par la patrouille la semaine dernière, mais alors... À la fois, c'est possible que ce soit parodique, mais hélas, c'est possible que ce soit vrai.
Je pense que c'est vrai.
Que pendant, juste après la mort de Sean Connery, certains, entre guillemets, woke ou élus Europe Écologie Les Verts ont dit que c'était un machiste, un suprématiste blanc, etc. Donc, vérité, pas vérité, on ne sait pas, mais c'est vrai qu'on s'attendait à ce genre de remarques.
Oui, absolument.
Je trouve ça très intéressant, ce que vient de dire Lucas. Alors, j'étais tombé sur son tweet parodique, qui était superbe.
Ouais. Racontez à nos auditeurs.
C'est lui qui va nous le raconter, parce que il avait singé le langage des Verts et le langage woke. C'était au moment où Sandrine Rousseau arrivait à la lumière, et je dois dire que c'était assez spectaculaire. Et donc, j'ai constaté après que, mais massivement, sur les réseaux, ça avait été pris au premier degré, y compris par des gens que je connais bien, des gens intelligents, etc. Et il avait dit, quand il avait fait son petit rectificatif, en disant « mais je constate que, faut-il en rire ou en pleurer ?» C'était une bonne question, parce que, justement, on peut les prendre au sérieux, il y a une tension qui le permet.
Dans ce cas, effectivement, j'ai l'impression que le deuxième, l'acteur blanc, c'est plutôt parodique.
Et hier, quand j'ai vu le tweet de Sandrine Rousseau oui. qui rendait hommage à Jean-Pierre Belmondo,
qui a réussi sa dernière cascade. Mais je me suis demandé si c'était pas un fake, si son compte n'a pas été piraté.
Elle l'a changé une première fois en mettant Jean-Paul, et ensuite elle l'a retiré complètement. Moi je me suis permis j'ai retrouvé un faire-part de décès pour un Jean-Pierre Belmondo en 2008. J'ai donc dit que ça devait être un de ses amis, qu'elle était un peu en retard. Mais j'ai pensé d'abord que c'était un fake. Oui, absolument.
C'est vrai que donc, maintenant, c'est plus... c'est dangereux, hein.
Mais c'est dangereux de se faire prendre, mais ça démontre aussi une tension dans la société.
David Corsero.
Après, fake ou pas fake, moi, je pense que, sincèrement, aujourd'hui... On avait un super acteur. Ouais. Je pense qu'il y a très peu d'acteurs qui ont un surnom comme lui pouvait l'avoir. Enfin, on peut dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, tous les acteurs qu'on a aujourd'hui s'inspirent de lui. Moi, personnellement, j'ai grandi avec ses films parce que mes parents m'ont emmené voir ses films. Il faut quand même juste rappeler quand même, c'était quasiment 1 million d'entrées chaque film à chaque fois. Ouais. C'était un dieu du box-office. Qu'on aime la carrière ou qu'on n'aime pas la carrière de cette personne-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous savez, on avait deux stars. C'est Johnny Hallyday en musique, tout le monde le dit. Au cinéma, il y avait Bebel et Alain Delon. Je pense qu'aujourd'hui, il nous reste qu'Alain Delon. C'est triste pour la France parce qu'on ne fabrique plus de vedettes comme ça. Et ça, c'est à regretter aujourd'hui.
C'était une autre époque aussi.
Mais je trouve qu'il y a une chose très intéressante. Je suis entièrement d'accord. Je veux dire, il m'a accompagné toute ma vie, ce garçon.
Et beaucoup d'hommes voulaient lui ressembler, surtout.
Oui. Et puis il avait un sens de l'autodérision. Enfin, je veux dire, c'est une institution et qui effectivement renvoie à un cinéma populaire qui était assez décrié après 68, etc., comme Funès l'était. Hein. Et donc aujourd'hui, on constate. Avec l'émotion, on constate que ce cinéma-là est resté, alors que la nouvelle vague, aujourd'hui, qui regarde des films de Truffaut ? Et pourtant, il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas désagréables, hein, mais il s'est passé quelque chose vis-à-vis de ces vedettes. Et elles sont, entre guillemets, hein, le terme n'est pas bon, mais éternelles, au sens où l'émotion le démontre, c'est comme Johnny Hallyday, d'ailleurs. Hein, je n'étais pas hallydiste, moi, mais je connaissais plein de gens qui l'étaient, je crois qu'on l'était ou on l'était pas. Hein,
Mais il y avait quand même une émotion.
Et là, c'était
relativement unanime. Alexis Bachelet, pour vous, Jean-Paul Belmondo, ça évoque quoi ?
Ça évoque plein de choses, parce que d'abord, c'est un des héros de mon enfance. Ouais. Je crois qu'un des premiers films qui m'a marqué, ça doit être L'As des As. J'ai découvert d'autres facettes de Jean-Paul Belmondo, la nouvelle vague, et puis j'avais beaucoup aimé aussi Itinéraire d'un enfant gâté. Donc pour moi, c'est un monument du cinéma et de la culture française qui vient de partir. Et il y a une part de nostalgie parce que ça me rappelle des souvenirs un peu comme De Funès, un peu comme Coluche, quoi. C'est des gens qui ont marqué, qui ont laissé une empreinte et qui laisseront une empreinte. N'en déplaise à des gens dont la pensée parfois est un peu baroque. Et avant Twitter, on ne savait pas forcément ce que pensaient les gens, donc c'était parfois mieux de ne pas le savoir. Bon, maintenant, on le sait. Je pense qu'il ne faut pas commenter.
Non, c'était un petit coup de colère.
Il ne faut pas qu'on s'abaisse à commenter des choses. Bon, si ça nous fait rigoler, ça va. Il ne faut pas prendre tout au sérieux.
Bon, Sandrine Rousseau, ça nous fait rigoler.
C'est important de rigoler dans la vie.
Est-ce que vous savez quel était le film préféré de son père ?
Non.
Qui était un sculpteur Belmondo.
Très beau musée.
À Boulogne. Qui n'était pas vraiment un homme de gauche. Et alors, son film préféré, c'était Léon Morin-Prêtre. Et je l'ai revu, et il fait une prestation extraordinaire. Alors, c'est pas un film gay, hein. Il y fait noir et blanc, c'est superbe. Il fait une prestation extraordinaire.
Ouais.
Je fais une petite anecdote pour Valérie. Quand Jean d'Ormesson est mort, j'étais ici, on a fait une émission, on parlait beaucoup de Jean d'Ormesson, mais je disais, il y a beaucoup d'émotions, ce sera comme quand Johnny va mourir, et elle dit, oh là là, ne parle pas de malheur, hein, et il est mort le lendemain.
Hein. Ils sont morts, jour, je crois que c'était
le lendemain, mais je me rappelle de cette réflexion, faut pas parler de malheur.
Allez, je vous propose qu'on réécoute le dernier son du zapping de ce matin, qui est un petit florilège de Jean-Paul Belmondo, de réplique de Jean-Paul Belmondo.
Vous faites pas les cons, tout va bien. Si vous faites les cons, tout va mal. Marchandise.
Et son mari n'a rien dit ?
Oh, tu sais, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent.
Qu'est-ce qui se passe chez vous ?
Il se passe que je vous emmerde, monsieur. Vous,
votre affreux boudin de femme et votre sale chat.
Oh !
Vous allez la laisser tranquille et partir très vite. C'est compris ?
Dis donc, comment on dit petit con dans sa langue ?
Quoi ?
Voilà, et ça finit par un bourre-pif. On se retrouve dans un petit instant, on va continuer à parler un petit peu de Jean-Paul Belmondo. 0826-300-300, si vous voulez réagir, si vous avez envie de témoigner, on vous attend sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi. Débat.
Avec vous sur Sud Radio pour les débats et nous sommes avec Lucas Jakubowicz, journaliste politique, rédacteur en chef adjoint de Décideur Magazine et vous publiez ce livre qui vient tout juste d'arriver, Un animal pour les gouverner tous, comment les dirigeants politiques exploitent les bêtes pour nous manipuler, c'est aux éditions Arqué. Régis de Castelnau, avocat, votre blog Vue du droit, on peut également vous suivre sur Twitter, toujours très pertinent, pas toujours d'accord avec vous, mais quand même. Vous avez publié Une justice politique aux éditions L'Artilleur et vous êtes également membre de la rédaction de Front Populaire. David Corsero, député modem du Val-d'Oise et Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes, ancien député PS, chef d'entreprise. On va parler de la réforme des retraites. Le président de la République va-t-il réformer avant ou après la présidence? Le procès des attentats du 13 novembre qui commence demain et puis quatrième nuit de violence à Corbeil dans l'Essonne avec la banalisation des violences urbaines. On n'en parle peut-être tout de même pas assez. Et puis cet hommage à Jean-Paul Belmondo, hommage national aux Invalides, comme pour, vous évoquiez Jean d'Ormesson, il y a eu Charles Aznavour, donc c'est mérité. On continue peut-être notre tour de table. Vous nous disiez, David Corsero, que vous le croisiez régulièrement autour de l'Assemblée nationale parce qu'il habitait le 7e.
Il habitait juste à côté, donc on avait quelques restaurants où on, de temps en temps, on savait qu'il était là. Voilà, vraiment très belle personnalité. Je l'ai jamais vu refuser une photo à quelqu'un, très gentil, très agréable, un sourire, vraiment un sourire exceptionnel. Et on disait surtout cet état d'esprit. Nous, on l'a toujours vu, quel que soit le temps qu'il pouvait faire, chemise ouverte, la chaîne sortie, et est toujours très agréable. Après, voilà, c'est pour moi, je le dis et je le redis, c'est un mastodonte du cinéma français. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, il nous reste qu'Alain Delon derrière et ça va être très compliqué après.
Ouais, Lucas Jakubowicz, vous êtes plus jeune, autre génération.
Oui, mais j'ai quand même été concerné par Jean-Paul Belmondo, notamment avec son aspect d'acteur de théâtre. Petite anecdote, quand j'étais jeune et lycéen, j'étais au conservatoire de théâtre, un conservatoire départemental, et certains jeunes, bon, c'était pas mon cas, rêvaient en fait d'être acteur, de monter à Paris, de faire le cours Florent, et nos professeurs nous disaient, vous savez, en fait, Jean-Paul Belmondo a raté 3 ou 4 fois à l'entrée au conservatoire.
Absolument.
Donc en fait, c'est pas parce qu'on est pris au premier coup qu'on est le plus talentueux. Et ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, les 4 années où il était en train de préparer le concours, en fait, il allait jouer des pièces dans des hôpitaux, dans des écoles, avec d'autres acteurs pas du tout connus à l'époque, dont par exemple Guy Bedos.
Mmh. Oui, mais je crois que ça a été un de ses moteurs d'ailleurs, d'avoir loupé justement le conservatoire, ça l'a, il a toujours eu cette envie de revanche. Voilà, vous voulez ajouter quelque chose?
Lucas a raison, il reste de long, hein, que Sandrine Rousseau appellera Roland probablement. Hein, et ça va être compliqué, hein, parce que c'est vraiment une page qui se tourne. Je regardais un petit extrait en zappant à la télévision d'un film qui s'appelait Les Copains en noir et blanc. Bah, ils étaient tous là, ils sont tous morts. Absolument. Rochefort, Noiret, etc. Bedos, hein, et donc c'est, ça va nous manquer. Hein.
Ça va nous manquer. Comme on dit, sans transition, on passe à l'actualité un petit peu plus... sérieuse, peut-être parler quand même des Tarterets, la cité des Tarterets qui a été à nouveau le théâtre de tensions entre habitants et forces de l'ordre. 4 policiers ont été blessés, 4 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Donc le cirque habituel, jet de projectiles sur des véhicules de police, dégradation de 4 caméras. Et ces incidents pourraient être liés à l'interpellation d'un homme soupçonné de rodéo urbain. Le frère du suspect est venu en découvert avec des policiers. C'est vrai qu'on voit circuler en ce moment sur les réseaux sociaux énormément de vidéos de policiers qui ont énormément de mal à maîtriser... certains individus. On parlait de Marseille, Corbeil-Essonne, les Tarterets, on a l'impression que ça fait des années qu'on en parle. Peut-être que le Val-d'Oise est plus tranquille que l'Essonne, mais pas sûr.
Ça dépend, vous savez, on a un très très beau département, mais on a des difficultés comme dans tous les départements. Moi, je vais vous faire partager quelque chose que j'ai vu et que se réaliser. En Seine-Saint-Denis, j'ai vu quelque chose de très très bien. La municipalité avait mis à disposition un terrain qui était totalement aménagé, où les jeunes pouvaient venir avec leur moto. Ils étaient accompagnés par la police, et c'est ce qui permettait à la police et les jeunes d'avoir quelques relations, déjà, de pouvoir se parler. Surtout, la police vérifiait que la moto n'était pas en difficulté, et ça permettait surtout d'éliminer les rodéos sauvages. Mmh. Et je trouvais que c'était plutôt une très bonne initiative. Vous savez, nous, on avait, sur l'île de France, on avait le circuit Carole, qui permettait aussi aux motards de venir avant. Mmh. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Je sais pas, moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème des rodéos, c'est un problème qui nous touche tous et qui touche toute la France. Et qu'il faut essayer de trouver des solutions qui permettent à ces jeunes de pouvoir s'exprimer tout en sécurité. Sauf qu'aujourd'hui, ils le font dans des conditions qui sont très dangereuses pour les habitants et pour eux-mêmes. Et c'est ce qui amène ces situations-là aujourd'hui de dégradation où la police intervient. Enfin, si les faits sont avérés et que oui. C'est suite à ces rodéos qu'il y a eu cette interpellation, oui, ça devient très compliqué parce que derrière, il y a une vraie défiance avec la police. Et effectivement, je pense que monsieur le maire qui est avec nous, peut-être que lui, il est aussi oui. concerné. Ça devient. Vous savez, on a beau légiférer ces textes. Oui. Il y a eu plusieurs légiférations qui ont oui, proposé des
ça
choses.
Suffit, ça suffit, non, ça suffit pas.
Aujourd'hui, on a un arsenal judiciaire. Et pourtant, ça ne marche pas. Il faut le reconnaître.
Alexis Bachelet.
Non, mais c'est un vrai sujet, les rodéos urbains. Et dans pas mal de communes, on est confronté à ces pratiques.
C'est le cas chez vous aussi?
Alors, ce n'est pas, je dirais, systématique, mais il y a eu ponctuellement oui, des gens qui s'amusaient à faire de la moto. En général, d'ailleurs, c'est des véhicules très bruyants. Ça provoque des nuisances. C'est dangereux. En général, la conduite est dangereuse. Il y a des infractions multiples au code de la route. Et puis, en plus, quand c'est des véhicules très bruyants, en fonction de l'heure et du moment, ça peut déranger la vie de tout un quartier. Donc, c'est pas des choses qu'on peut évidemment laisser faire comme ça. Et pendant longtemps, d'ailleurs, on n'avait pas d'arsenal juridique. Donc là, il y a eu des possibilités. Notamment, on avait un mal fou, quand la police interpellait les individus, à saisir les véhicules et à intervenir. Donc là, il y a eu des modifications de la loi qui permettent aujourd'hui de saisir. Mais voilà.
Au-delà de ça, ça dit quand même. Et j'évoquais ces vidéos qu'on peut voir circuler ici ou là de policiers qui n'arrivent plus à maîtriser les gens qu'ils interpellent. Il y a quand même une défiance. Enfin, on le sait, le mot défiance est très faible vis-à-vis de l'autorité, vis-à-vis de la police. On sent que la police, finalement aujourd'hui, les policiers font pas forcément le poids face à ces délinquants.
Je crois que le problème est beaucoup plus profond parce que on parle des rodéos. Les rodéos, c'est une expression particulière d'un phénomène plus profond. Mais Valérie, vous avez d'abord parlé des violences, c'est-à-dire que dès lors qu'on interpelle un délinquant, parce que mise en danger délibérée d'autrui, puis il y a tout un tas d'autres infractions, ça provoque des réactions. C'est comme à Marseille, on a aujourd'hui des zones qui ont fait sécession, et elles sont devenues des enjeux de pouvoir pour l'occupation de l'espace public. C'est un défi. Quand les rodéos avaient lieu sur la grande place de Lyon, là, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, c'est véritablement...
Bellecour. Oui.
Voilà. C'est pour montrer qu'on peut occuper, avec ses propres règles, l'espace public. Et les policiers, avec de faibles moyens, ne peuvent pas contrer. C'est pas, il ne s'agit pas de se contenter d'une répression, même si elle est utile. Il s'agit de savoir si on veut que l'espace public soit régenté en fonction des règles de la République. Or, aujourd'hui, c'est ça, c'est une sécession par en bas qui a eu lieu et qui est très difficile à traiter, très difficile, puisque lorsque on arrête un délinquant qui pourrit la vie des habitants, des gens, etc., immédiatement, il y a une réaction et on considère que c'est une agression sur l'ensemble de ces petites communautés.
Oui, absolument. Lucas ?
Oui, c'est tout à fait ça le nœud en fait, du problème. C'est même pas la question du rodéo, si ça avait été un trafic de cannabis ou n'importe quel délit, si la police dans certains quartiers veut agir, tout de suite, il y a une sorte de front anti-police, et alors, à mon avis, c'est ça le principal problème. Et alors, je sais pas comment régler les choses, je suis pas du tout dans la politique, mais j'ai l'impression que les habitants de ces quartiers sont excédés. Alors, est-ce qu'ils peuvent créer des associations? Est-ce qu'ils peuvent faire pression sur leurs élus pour que ça cesse? Dans le fond des choses, c'est eux les premières victimes, les habitants qui peuvent pas dormir, qui peuvent pas vivre au quotidien, qui peuvent pas emmener leurs gosses au parc, etc., etc.
Oui, absolument. Mais qu'est-ce
alors,
que...
On sait que dans ce cas-là, il y a eu quand même le maire de Corbeil-Essonnes a réuni des rencontres avec les mamans de ces quartiers, les responsables de la police pour essayer de trouver des solutions. Mais ça ne fonctionne pas. Enfin, on le voit bien qu'aujourd'hui, ça ne règle pas le fond du problème.
Le fond du problème, c'est quoi?
Le fond du problème, il est très simple. La police dérange dans ces quartiers-là parce que, vous l'avez dit juste avant, il y a un petit trafic. Le fait qu'il y ait un rodéo, effectivement, ça permet à la police de regarder ailleurs et de faire autre chose. Et c'est ça, le fond du problème. Le fond du problème, c'est que très souvent, c'est un trafic de drogue qui se cache derrière et c'est maquiller les choses pour que la police fasse autre chose et les laisse tranquilles. Le fond du problème, c'est ça, c'est que la police est sur le territoire, il n'y a pas de territoires qui sont interdits, et ça pose problème aux trafiquants pour faire leur trafic.
Ça veut dire que si on est très cynique, on peut dire laissons les dealers empêcher les rodéos, c'est ça?
Non, mais les rodéos, c'est un faux prétexte pour que la police fasse autre chose. C'est la manière de détourner le regard de la police pour
l'attirer
pour un état-pont.
Sur la place centrale de Lyon, il y a de la bravade. Comme par hasard, les véhicules ne sont pas homologués, c'est sans casque, etc. Il y a un refus des règles d'une structure de la République, des règles que l'on refuse, dont on considère qu'elles ne sont pas applicable. Regardez, alors on a eu toute la semaine dernière le grand cirque autour de Marseille, il y a des checkpoints, excusez-moi. Hein, c'est-à-dire que vous avez des zones entières qui sont contrôlées. Il y a les trafics de drogue, mais au-delà de ça, je dirais, mais c'est stupéfiant. Vous voulez rentrer à un endroit, vous ne pouvez pas parce que qu'est-ce que vous venez faire, etc. Vous avez des gens qui dirigent, qui organisent l'espace public de ces endroits. Attendez, c'est un défi à la République qui est colossal.
Ouais. Alexis Bachelet, vous qui êtes élu, comment vous voyez les choses?
Pour partir de la situation extrême que décrit Régis, c'est-à-dire à Marseille, où on a littéralement des territoires qui sont contrôlés par des groupes d'individus, c'est évident que c'est lié principalement à l'économie souterraine et que plus il y a d'économie souterraine et donc plus il y a d'argent généré par le trafic de drogue, d'armes ou autres, et bien plus ces groupes sont structurés et plus ils considèrent que c'est leur loi qui s'applique dans le territoire qu'ils contrôlent et dont ils vivent. Parce qu'en réalité, derrière ces trafics, qu'est-ce qu'il y a? C'est de l'argent. Un argent considérable qui fait vivre beaucoup de gens, des familles, pas des quartiers entiers, mais des morceaux de quartiers. Et vous verrez que plus il y a d'argent, plus le contrôle du territoire est fort. Oui. Quand vous avez des petits points de deal ici ou là, ça arrive dans la plupart des communes de France. Vous avez un du petit trafic, vous n'avez pas effectivement des gens qui sont là avec des checkpoints, etc. C'est du petit trafic et en général, la police intervient quand ça gêne les riverains. Tant que ça ne gêne personne, je veux dire, ça se passe et puis la police a autre chose à faire. On nous le dit d'ailleurs, on va sur les gros trafics. Souvent, ils disent le petit trafic, ça ne nous intéresse pas, on n'a pas les moyens de façon d'intervenir et même si on démantèle un petit réseau, le lendemain ou le surlendemain, ils sont remplacés parce que de toute façon, là où ça génère de l'argent, vous trouvez toujours des bras et des mains pour faire tourner le trafic. Par contre, à Marseille, on est arrivé à un niveau, à mon avis,
En région parisienne aussi ou en région lyonnaise, de la même manière. On va y revenir dans un instant.
Vous ne vous rappelez pas, il y a quelques années, à Saint-Ouen, je m'en rappelle, il y avait des dealers qui louaient à d'autres dealers les halls d'immeubles. C'est-à-dire que les halls d'immeubles qui rapportaient étaient sous-loués. C'est véridique. Et il y a même un moment donné, dans cette ville, il y avait des habitants qui s'étaient regroupés en collectif et qui avaient réussi à chasser les dealers de leur hall d'immeubles en venant là, en faisant, etc. Donc, on a beaucoup de situations conflictuelles, compliquées, liées à ces trafics. Et donc, si on ne s'attaque pas effectivement à cette économie souterraine... Ouais.
Alors, on va en parler.
La répression, si la répression suffisait, ça se saurait. Gouvernement après gouvernement, rhétorique.
Oui, mais
il n'y a jamais eu
de vraie répression, si. Je vous pose la question. 0826-300-300, on en reparle.
Sud Radio 10h midi, débat.
Avec vous sur Sud Radio, jusqu'à midi, on évoque ce qui s'est passé, ce qui se passe à Corbeil-Essonnes, quatrième nuit de violence. Il n'y a pas évidemment qu'à Marseille ou à Corbeil. De nombreuses villes sont la proie de rodéos, de trafics divers et variés. On l'évoquait avec vous, Alexis Bachelet, la question c'est est-ce qu'on a carrément baissé les bras? Est-ce que la police aujourd'hui est en mesure de lutter contre ces comportements? Quand on voit qu'au Tartare forêt, il y a eu des feux qui ont été lancés. On a une escouade particulière de policiers qui ont été obligés de sécuriser l'intervention des pompiers. Genre, on en est là. On en est à des flics qui sont là pour protéger les pompiers, Lucas.
Si la police se fait caillasser, attaquer et qu'elle intervient, quelque part, c'est qu'elle n'a pas baissé les bras et qu'elle continue d'intervenir. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment un abandon de l'État. Il y a des difficultés de l'État à intervenir dans certains quartiers, mais pour l'instant, on a le sentiment que les pouvoirs publics n'ont pas encore baissé les bras. Et je voulais juste
aussi... Oui, mais avec quelle efficacité ? Les pouvoirs publics...
Après, il y a
une différence peut-être entre les policiers qui font leur boulot, qui
après,
y vont...
Après, sur le terrain, il y a la justice. Si la personne est condamnée 14 fois et ne va jamais en prison, quelque part, ce n'est pas de la faute des policiers. Et ce que je trouve assez intéressant aussi dans le discours politique, c'est qu'assez souvent, ça c'est toujours pareil hein, depuis 30 ans, la droite doit faire des procès en laxisme à la gauche, etc. Mais... Par exemple, les Tarterets, Corbeil-Essonne, c'est une ville de droite. Ouais. Marseille, c'était une ville de droite pendant des années. Mmh. Donc, quelque part, on ne peut même pas dire que la droite est plus efficace que la gauche.
Non.
Dire, c'est une sorte d'impuissance, mais générale et quelque part transpartisane.
Ouais. Et vous voyez, dans ce que vous venez de dire, il y a des choses très intéressantes. Aujourd'hui, on en parle. Tout le monde veut des places de prison. Mais dès qu'on veut en faire une, c'est pas possible. Sur les territoires, les gens n'en veulent pas. Dès qu'on dit à un maire, est-ce qu'on peut construire une prison, c'est pas possible. C'est les habitants qui refusent l'installation d'une prison. Donc ça, c'est un vrai débat. Ça, c'est un vrai problème de fonctionnement. Parce que moi, je suis pas juge, mais
Est-ce qu'on ne construit pas de prison aujourd'hui parce que les habitants ne veulent pas des prisons ? C'est vraiment la raison ?
Non, mais déjà, c'est très... très compliqué pour faire une prison parce que ça met beaucoup de temps et surtout c'est pas ça. Il y a des tonnes de prisons qu'il faudrait déjà rénover, ça c'est aussi un vrai bien principe. Et aujourd'hui la vraie difficulté c'est que pour mettre des trafiquants en prison il faut de la place. Et ça aujourd'hui on peut dire ce qu'on veut. Moi je vais pas défendre le bilan du gouvernement parce qu'aujourd'hui nous on cherche à le faire, c'est un vrai projet, mais aujourd'hui les moyens quand on dit qu'on remet les moyens de 2008 que ce soit en termes d'effectifs de police que ce soit en termes de budget de la police, que ce soit en termes de rénovation des voitures, enfin quand même entre 2008 et aujourd'hui c'est passé quand même beaucoup de choses en politique. Moi je trouve pas ça normal qu'aujourd'hui on fasse un retour en arrière pour remettre les moyens qui étaient existants, parce qu'à l'inverse les trafiquants eux ont augmenté leurs moyens, nous pendant des années on les a diminués, et ben ça aujourd'hui moi je veux bien qu'on l'entende, je pense qu'aujourd'hui il faut une vraie politique, et je pense que sur le débat présidentiel qui devrait arriver, il devrait avoir un consensus de tous les candidats sur une vision policière, parce que je pense qu'il faut arrêter de jouer avec le budget de la police et de la justice. Il doit avoir une ligne directive pour 20 ans, comme on peut l'avoir avec François Bayrou, aujourd'hui, qui propose des solutions pour l'avenir.
Les moyens qui ont été baissés par un candidat qui a fait de la lutte contre la sécurité son cheval de bataille. Donc c'est cocasse aussi, pour ne pas le nommer.
Je pense qu'il y a une responsabilité partagée considérable. Alors, juste sur la réponse judiciaire, puisque elle est importante hein, dans la lutte contre l'insécurité, contre cette violence. Le budget de la justice en France est grotesque. Et c'est pas nouveau. Hein. Depuis il y a 20 ans, il y avait autant de magistrats qu'au 19e siècle. Hein, donc, et aujourd'hui, par rapport aux autres pays, à l'Allemagne, etc., tous les ratios le démontrent. Et on avait un système carcéral, je dis on avait, parce qu'il y a quelques efforts qui ont été faits, un système carcéral lamentable. Il a fallu que des parlementaires, en fonction d'une prérogative, hein, qui est la leur, d'aller, quand ils veulent, ils vont en prison, on rentre, et ils rentrent et on doit les laisser rentrer. On dit, mais attendez, c'est pas possible. Jusqu'il y a 2 ans, être incarcéré au Beaumetz, c'était invraisemblable. Invraisemblable. Tout partait en morceaux. Vous aviez, il y faisait une chaleur, alors parce qu'on est à Marseille, absolument épouvantable. Il y avait des rats partout. Vous aviez de l'eau jusqu'aux chevilles. Enfin, je veux dire, bon, ça a été amélioré, mais c'est pas facile effectivement de construire des prisons parce que on a des contraintes aussi. On a des contraintes, c'est-à-dire qu'il y a des règles européennes, il y a la Convention européenne des droits de l'homme, et que vous ne pouvez pas priver un prisonnier de sa vie familiale. Donc, il faut que ce soit construit, ces prisons, il faut qu'elles soient construites dans les zones d'habitation.
Avec les transports en commun qui desservent les lieux,
etc. Et donc, les terrains sont très chers.
Mais là, vous en êtes à la prison, on n'en est pas là. Là, on parle de policiers qui, aujourd'hui, n'arrivent pas à maîtriser des délinquants. Enfin,
Parce qu'ils ont un sentiment d'impunité, les délinquants. C'est très fort, ça. 12 condamnations sans avoir fait une demi-minute de prison. Je ne parle pas de la garde à vue, ça fait partie aussi. Et puis au contraire, on sort de la garde à vue, on a, c'est un galon de plus. Hein. Non, je veux dire, c'est le, il y a un sentiment d'impunité, de puissance, et je reviens sur cette histoire de maîtrise de l'espace public, il y a un enjeu. C'est un espace public qui est disputé aux policiers. Mmh. C'est oui, une forme de guerre.
Oui. Alexis Bachelet.
C'est intéressant qu'on aborde aussi la question de la réponse pénale, parce qu'effectivement, le sujet des violences urbaines n'est pas uniquement un sujet de police. C'est un sujet de police, oui. C'est un sujet de justice. Et puis, c'est un sujet aussi de qu'est-ce qui fait le terreau de cette délinquance. Et le parlementaire qui est dans notre débat a raison. Quand merci on met l'augmentation des moyens de la police au regard de l'augmentation des moyens des trafiquants, les trafiquants, si vous voulez, ils sont 10 fois plus nombreux et ils ont 10 fois plus de moyens qu'il y a 10 ou 20 ans. Pourquoi ? Parce que si vous prenez le trafic du cannabis, comme le nombre des consommateurs n'a cessé d'augmenter en France, puisqu'on est le pays d'Europe où il y a le plus de consommateurs de cannabis, eh bien tout cet argent, il est allé dans la poche de qui ? Il est allé dans la poche des délinquants. Et donc, on a vu multiplier le nombre de délinquants et des dealers. Maintenant, il y en a partout. Et c'est un business qui est monumental. Et est-ce que un jour en France, on fera le bilan du concept qu'on applique, un concept d'ailleurs qui n'est pas un concept français qui vient des États-Unis, c'est de la guerre contre la drogue. C'est un concept que Nixon avait inventé dans les années 60 et c'était un peu comme la prohibition dans les années 30, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils ont décidé à l'époque que la seule réponse par rapport au trafic de stupéfiants, c'était la prohibition. Et donc en France, on a des lois qui sont ultra répressives. Ultra répressif, que ce soit sur la consommation et évidemment sur la vente, qui est vraiment illégal. Et donc, moi, ce que je me dis, c'est à quel moment on va se dire que ça ne marche pas, qu'en termes de prévention, de prise en charge, de suivi sanitaire, il y a des gens qui se droguent et qu'il n'y a aucun moyen, aucun suivi, aucune prise en charge. On met un argent considérable et on demande aux policiers de démanteler des trafics qui se reconstituent quasiment 24 ou 48 heures après. Et la justice, évidemment, elle baisse aussi les bras parce qu'elle n'a pas les moyens de traiter. D'ailleurs, c'est tellement vrai que sur la consommation, aujourd'hui, c'est une infraction. Ça vaut 200 euros si vous fumez un joint. Donc, ça veut dire qu'avant, on envoyait les gens au tribunal. On s'est dit, non, là, c'est plus possible, il y en a trop. Donc, à quel moment on va faire la part des choses et on va se dire, par exemple, sur les drogues douces, on assouplit, on adapte la législation et on met le paquet sur la prévention et on met le paquet sur la lutte contre le trafic d'armes, contre les drogues dures, etc. etc. Ou est-ce qu'on continue à laisser les dealers s'enrichir ils vont s'enrichir encore. Hein. Vous savez, les millions de fumeurs de juin, ils ne vont pas disparaître comme ça du jour au lendemain parce qu'un ministre de l'Intérieur dire se droguer, c'est mal et on va mettre le paquet sur la lutte contre les délinquants. Non. Mais ils s'en foutent, tout cela.
Déjà qu'on a vu il y a quelque temps que les cocktails Molotov devaient être interdits, les fusées par le ministre de l'Intérieur, et il y en a toujours visiblement autant. On se retrouve dans un petit instant avec vous sur Sud Radio.
Sud Radio 10h midi. Débat.
On est parti très loin dans nos débats. Pendant la pub, on parlait McDo, figurez-vous, pour ou contre les nuggets.
S'il n'y a plus de trafic de drogue, il va falloir que les gens vivent. Non. McDo est une entreprise, d'abord, qui s'approvisionne en France, et deuxièmement, qui fait des parcours de vie, des parcours professionnels. Ils ont été dans les zones où plus personne n'allait.
D'insertion, il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui vivent au quotidien grâce à ça.
Et qui rentrent comme je sais pas quoi, hein, et qui peuvent finir comme gestionnaire.
Manager, responsable,
Alors, les attentats, changeons de sujet, parlons du procès qui va s'ouvrir, c'est intéressant comme lapsus, qui va s'ouvrir demain, 6 ans après cette nuit de terreur, cette nuit abominable, donc ce procès des attentats du 13 novembre, qui débute demain au Palais de Justice de Paris, donc on l'a dit, un procès hors norme, une salle qui fait 750 mètres carrés, 10 salles de transmission télévisées, il y aura 20 accusés, donc 14 présents, 1765 parties civiles. Je trouve que ces chiffres donnent l'ampleur de la tragédie de ce qui s'est passé. 330 avocats, 145 journées d'audience au minimum. Régis de Castelnau, c'est vers l'avocat évidemment que je me tourne. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un tel procès ?
Alors, je vais me jeter à l'eau et dire mon désaccord avec mais qui est un désaccord un peu théorique, hein, mon désaccord avec la façon dont ce procès va se dérouler. Donc, 9 mois pour une affaire d'assises, avec jury, etc. 1600 parties civiles qui vont s'exprimer, ce qui est normal, c'est la règle. C'est une cérémonie expiatoire. C'est une cérémonie expiatoire, c'est un monument qu'on va dresser à cette occasion pour montrer aussi qu'on est capable d'affronter cette horreur. Et j'ai tendance à penser en professionnel que c'est pas le boulot de la justice. La justice, elle est là, elle a une mission relativement limitée, elle est là pour juger des gens, leur appliquer des sanctions, utiliser la violence légitime dans des procédures normées. Et là, on va s'en éloigner, parce que ça va durer. Alors, on sait très bien que là, on va en parler beaucoup, puis dans quelques semaines, ce sera fini, et puis il y aura un espèce de ronron. Donc, j'aime pas trop quand on transforme. Je vais utiliser un mot très fort, mais c'est pas péjoratif dans ma bouche. On va faire une espèce de grande pièce de théâtre, un petit peu, pour qu'on affronte cet événement. Alors, quand je dis que je suis pas très favorable, en même temps, on l'a fait pour Barbie, on l'a fait pour Papon. Les grands procès de la mafia en Italie ont été faits, qui ont duré des années parfois pour certains, etc. Parce que on n'avait pas d'autres méthodes pour expier, y compris ce qui s'était passé, l'assassinat des magistrats en Sicile, etc., etc. Donc, la société a besoin de ces cérémonies expiatoires et on demande à la justice de le faire. Donc je suis très partagé et j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Je vous cache pas, avec la surenchère médiatique, etc., que on ait quelques excès, quelques débordements et surtout peut-être en ce qui concerne les victimes une certaine frustration.
C'est un procès. On va juger Salah Abdeslam, on va juger 20 personnes. Donc c'est un procès. Il faut que la justice passe quand même sur ce qui s'est passé.
Oui, mais là, ce qu'on a fait, 7 millions d'euros de travaux, filmés, etc., etc., tout ça a été fait pour... C'est une mise en scène qu'on fait. Et je ne sais pas si la justice, pour être dans sa mission, a besoin de ça. Mais c'est un autre besoin qu'on va satisfaire. Et je m'incline.
On va faire tourner la parole Lucas Jakubowicz.
Je suis tout à fait d'accord avec Régis. Et quand il y a des grands procès, en fait, à chaque fois, il y a deux choses. Il y a l'aspect justice. Donc là, c'est vraiment technique. On respecte les lois, etc. Et après, il y a l'aspect catharsis. C'est comme si tout un peuple parle, partage, finalement...
Se recueille, d'une certaine manière.
Recueille. Alors, ça avait été ça pour, effectivement, les procès Barbie.
Oui, les procès de Charlie Mirler, aussi, et plus
et
récemment.
Ça n'a pas empêché la justice d'être rendue. Donc, l'aspect spectacle et catharsis, il n'est pas forcément contradictoire avec le fait de bien rendre la justice. Moi, ce qui me fait peur un peu dans ce procès, c'est qu'on est une société qui est quand même assez fracturée, et j'ai peur de certains propos qui montrent vraiment qu'en France, il n'y a pas d'union sacrée. On va sûrement voir.
C'est-à-dire, vous pensez aller au bout de votre pensée, vous pensez à quoi comme type de propos?
On va voir, mais c'est tout à fait normal dans une démocratie même. Mais on va voir des gens qui vont peut-être trouver des circonstances atténuantes à Salah Abdeslam, à dire peut-être que certains l'ont cherché, peut-être qu'on devrait ne pas être trop sévère, etc., etc. Et j'ai peur, quelque part, que ça fracture davantage la société. En même temps, si on avait fait un procès en vase clos, ça aurait aussi attisé des théories complotistes.
Oui. Pour vous, pour ces députés,
moi, juste avant de répondre à votre question, je veux avoir une petite pensée à tous ceux qui ne seront pas au procès et qui sont décédés ce jour-là. Et je pense que ça, c'est le premier point qui permet de se dire que souvent, pour comprendre l'histoire, il faut pouvoir retracer ce qui s'est passé. Et les procès servent aussi à ça. C'est comprendre comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé et surtout qui a fait quoi. Après, voilà, une nouvelle fois, vous l'avez dit juste avant, moi je vais donner un argument qui est un argument très important. Une nouvelle fois, on s'aperçoit que la France est un vrai pays démocratique. Et ça, c'est important, je tiens à le dire, parce que les attentats du 11 septembre n'ont jamais été jugés comme ils vont être jugés en France. Je rappelle qu'aux États-Unis, le pays qui va souvent dans d'autres pays pour faire valoir la démocratie, eux, tout le monde a été mis à Guantanamo, enfermé à Guantanamo, avec des supplices certainement terrible, et jugé à Guantanamo. C'est pas le cas en France. En France, on est dans une démocratie qui existe, et le procès va servir à comprendre ce qui s'est passé, à juger les gens. Effectivement, vous avez peut-être raison, peut-être qu'il y aura des mots qui seront dits, qui ne vont pas être dits, mais moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui était au Bataclan, et elle me dit, moi, ma vie depuis, elle a totalement changé, et j'ai besoin de tourner la page, de fermer cette page. Et ce procès, c'est l'occasion pour moi d'en parler une dernière fois, et de passer certainement à autre chose. Elle me dit, mais je ne viens pas chercher des réponses à mes questions, puisque entre eux, ils se sont tous soudés la plupart du temps, ils se connaissent tous entre eux, ils se sont racontés leur histoire, mais ils viennent comprendre comment des Français ont pu commettre ces attentats sur le sol français.
130 morts, hein, 350 blessés. Faut quand même redire ces chiffres. Alexis Bachelet.
Je voudrais répondre oui. Après.
Alexis, est-ce que c'est le rôle de la justice ? Oui, Alexis.
J'ai pas été parfaitement convaincu par les arguments de Régis et je.
Non.
Je comprends qu'il ait des réserves ou des interrogations, mais. En même temps, je ne vois pas comment on pouvait ne pas avoir un procès parce qu'il y a 20 accusés qui doivent être jugés et condamnés et les responsabilités doivent être établies et l'événement est tellement barbare, la barbarie des djihadistes a tellement violenté notre pays et c'est un peu notre 11 septembre si vous voulez, donc il faut une réponse judiciaire à la hauteur du crime, des crimes commis ce 13 novembre et donc forcément il y a quelque chose de démesuré dans ce procès, mais il y a des centaines de parties civiles, il y a des centaines de parties, peut-être même des milliers. Donc oui, et je crois que le rôle de la justice, c'est de les entendre et que toutes ces... Il y a des centaines et des centaines d'auditions qui sont programmées, des gens qui sont partis à l'étranger, des gens qui viennent de partout en France et qui, bien, veulent donner leur témoignage de ce qu'ils ont vécu, de la souffrance, de la... Voilà, et je crois que c'est aussi une manière de montrer la force et la sérénité de notre pays face à cette attaque. Qui a été commandité par l'État islamique, préparé en Syrie, avec des complicités en Belgique, avec des complicités en France. Et donc, c'est important, dans procès, c'est un processus aussi de faire éclater toute la vérité et qu'on soit bien, je dirais, à la fois dans le respect de la mémoire des victimes, mais aussi dans établir les responsabilités. Et ensuite avoir des peines et juger et condamner les gens qui doivent l'être. Je pense que c'est important. C'est un moment qui a été terrible pour l'histoire de notre pays. Et je pense que ce procès, il était indispensable. Après, les conditions matérielles, les conditions médiatiques, ça ne pouvait pas être un procès comme les autres.
Oui, voilà. C'est ça. En quoi est-ce que c'est différent d'un autre procès ? Il est de cette ampleur parce que le nombre des victimes est conséquent aussi.
Je vais en dire un mot de ça. Première observation, j'entends, il faut dire la vérité, etc. La justice est là pour dire la vérité judiciaire, qui est une vérité qui entretient parfois des relations relativement lointaines avec la vérité objective. La vérité judiciaire, c'est celle que le juge est capable de recueillir, d'avoir, et à partir de cette vérité qui est relative, j'insiste, il faut qu'il y ait des preuves, il faut qu'il y ait un débat contradictoire, etc., hein, il va prendre une sanction. Dans la tête des dizaines d'affaires, peut-être pas des dizaines, hein, où des gens ont été acquittés parce que on n'a pas pu prouver leur et la vérité était qu'ils avaient bien commis cette infraction. Bon, toujours est-il que ça c'est une première donnée. Attention à ce besoin de savoir la vérité, je crois qu'on la connaît à peu près, hein, et à cette notion de vérité judiciaire, ça recèle ma contradiction, parce que je suis partisan de ce procès. J'ai un peu peur du populisme judiciaire, mais vous savez, toutes les affaires, les faits divers, c'est tellement... Faut dire, c'est extraordinaire, un fait divers. Donc, bon, il y a un peu de pression, parfois, sur les magistrats, etc. Et donc, pression médiatique, hein, s'entend. Ma deuxième observation, et c'est pour vous répondre.
Vous parlez à Monsieur Corsero.
Oui, je
n'ai pas de souci. C'est comme
Alexis. Hein, mais moi, j'ai des excuses. Ce sont mes neurones qui ne sont plus tout jeunes. Donc, non, ce que je veux dire, c'est que... et j'invite beaucoup de gens à le faire... Je regarde en ce moment une série qui est sur une chaîne qui doit être la chaîne Géo, une série sur le 11 septembre. Je veux dire, 11 septembre, Bataclan, c'est pas pareil. C'est, non. Si vous voulez, c'est un... J'ai repris le choc. Ce que les États-Unis ont subi, c'est colossal. Alors, j'étais mais de
pourquoi,
ceux qui disaient...
Oui, mais pourquoi comparer
Attendez, parce qu'on leur reproche leur comportement judiciaire. Non, mais je comprends.
Je ne reproche pas, j'explique juste qu'aujourd'hui, dans un pays où on nous dit qu'on est contre vaccin, qu'on n'est pas un pays démocratique, une nouvelle fois, ça fait preuve qu'on est un pays démocratique.
Oui, mais c'est pas à l'échelle. Hein, c'est pas à l'échelle, justement, je crois que c'est bien. Alors moi, j'étais de ceux qui disaient, quand ils sont partis, la queue entre les jambes d'Afghanistan, quand tout le monde a dit qu'il fallait pas y aller, etc., c'est un peu facile, hein, quand on voit ce qu'ils ont pris. Alors après, l'agression de l'Irak et tout à fait d'accord, hein, je pense que George Bush mérite la corde. Mais Mais par rapport à ça, la réponse des États-Unis à je veux dire, un acte de guerre. Il y a eu plus de morts en septembre qu'à Pearl Harbor, hein, c'est faut le savoir. Donc, alors bon, ils ont eu des solutions qui étaient celles de Guantanamo. Il y a un procès en cours. Hein. Oui.
Il y a un procès en cours.
Devant une justice militaire. Devant une justice militaire.
Mais revenons, revenons en France.
Tout ça est compliqué. Non, ce que je veux dire, c'est que effectivement, on est dans cette contradiction. Il y a le choc et le trauma national, hein, et on va se servir de, la, de l'opération judiciaire pour le traiter, le trauma. Hein. Bon, les Américains ont fait différemment.
Oui, mais c'est le principe même d'un procès, non?
Non, le procès n'est pas là pour traiter le trauma national ou le trauma, non, il est là pour établir
justice,
une vérité judiciaire et punir celui qui a commis les faits.
Mais il a aussi un effet cathartique d'une certaine
hélas,
manière.
À force, oui, vous comprenez, la parole des victimes a pris trop d'importance aujourd'hui dans notre pays. Hein. Il y a un livre qui sort sur MeToo, là, il sort le 7 octobre, mais je l'ai eu hier. Donc, sur le fait que nous vous croyons, vous rappelez de ce mot d'ordre, hein, féministe, nous vous croyons. Hein. Il y a eu donc, non, la justice n'est pas là pour permettre de se reconstruire, n'est pas là pour faire des catharsis. À cette occasion, je trouve bien qu'elle le fasse.
Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Alors, il nous reste peu de temps toujours dans cette dernière partie, mais quand même quelques mots sur la réforme des retraites. Emmanuel Macron pourrait-il relancer une partie de cette réforme des retraites dans les prochaines semaines pour la mener à bien avant la fin de son quinquennat? C'est une réforme qui pourrait passer du moins en partie avant 2022. Est-ce qu'il essaye de séduire la droite? Est-ce qu'il a intérêt à le faire avant l'élection présidentielle? En tout cas, on sent qu'il y a une hésitation sur le sujet, Lucas.
Oui, cette hésitation, elle est totalement compréhensible. En fait, Emmanuel Macron, il a deux possibilités. Soit il relance la réforme, et donc il dit à son électorat, vous voyez, je suis un président réformateur, je tiens un cap, je tiens mes promesses.
J'irai au bout.
J'irai au bout. Ça peut marcher. Mais dans ce cas-là, il va se retrouver avec des manifestations énormes. Il va donner un cadeau à la gauche, c'est-à-dire que la gauche, qui aujourd'hui n'a rien en commun, pourra trouver un petit dénominateur commun pour l'attaquer et potentiellement pour s'unir dans la campagne. En même temps, s'il fait rien, la droite va pouvoir l'attaquer en disant bah, voyez, il a promis beaucoup de choses et puis finalement, c'était que de l'esbrouf.
Ouais.
Je pense, moi, si j'étais lui, je ferais le tour rond, j'attendrais d'être élu en 2022 pour refaire la réforme avec un peu de temps devant moi.
Oui, parce que c'est un sujet qui, évidemment, est relativement explosif.
Et du reste, il n'y a jamais eu une seule réforme des retraites, à ma connaissance, dans une année présidentielle.
Ouais. C'est le truc David Corcero.
Moi, je vais vous parler de ce que nous, on sait aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a rien d'inscrit au calendrier. Après, vous savez, ça peut très bien arriver. Le temps parlementaire est long, très souvent. Donc, aujourd'hui, dans la logique des choses, nous nous arrêtons en février. Donc, ça veut dire qu'il faudrait démarrer cette réforme rapidement pour qu'elle puisse être mise en place. Voilà. Après... il y a les réformes qui arrivent, il y a déjà le budget de la France sur lequel il faut qu'on travaille, qu'on mette en place. On a aussi la loi 3DS qui est toujours là, qui est toujours pas passée. Donc il reste plein de textes. Donc les présidents de l'Assemblée, eux, et le président du Sénat se mettent d'accord sur les textes. Donc après, si le texte arrive, voilà, on ira au travail. Mais aujourd'hui, je pense pas que ce soit possible compte tenu du calendrier parlementaire.
Oui, Alexis Bachelet.
Écoutez, je pense que ça n'ira pas à son terme parce que je pense que le calendrier parlementaire ne le permet pas, ça vient d'être dit, et puis que politiquement, ça serait même au final assez contre-productif parce que on est à quelques mois d'une élection présidentielle. La réforme des retraites, c'est un sujet qui intéresse tous les Français. A déjà fait l'objet de nombreux débats et aussi de mouvements sociaux relativement forts. Et donc, d'un point de vue démocratique, ça serait aussi une forme de passage en force, alors qu'il suffit à Emmanuel Macron, qui probablement va se représenter, de le mettre dans ses engagements de campagne et de le faire ratifier par le suffrage universel. Et ainsi, s'il était réélu en 2022, il pourrait s'appuyer sur une forme de légitimité démocratique qu'aujourd'hui, il n'a pas. Et donc, je pense que ça serait souhaitable qu'il annonce que, effectivement, c'est un sujet qui lui tient à cœur, qu'il veut réformer, mais qu'il ne le fera que quand les Français se seront exprimés.
Ouais. Alors, je suis assez d'accord avec ce qu'Alexis vient de dire. Je rappelle quand même que le mouvement des Gilets jaunes s'était prolongé par les luttes sociales sur la tentative de réforme, avec ce cher Jean-Paul Delevoye. Tiens, à propos, il en est où de ses affaires pénales, ce brave garçon, hein, j'avais calculé que j'en avais pointé une 11, hein, des infractions pénales assez sévères quand même et assez sérieuses, hein, mais tout a l'air de se passer très paisiblement pour ce qui le concerne. Il n'est pas le seul à être ainsi préservé. Ce que je pense, c'est que effectivement, tactiquement, il n'y a pas intérêt. Il n'y a pas intérêt. On n'est pas sorti d'une quatrième vague. La situation est quand même délicate, difficile. On a une société très fracturée. Donc, relancer un sujet comme celui-là, sûrement pas. En revanche, faire ce qu'avait fait, je le rappelle quand même, Nicolas Sarkozy, soutenu par les socialistes, après le référendum de 2005, il a mis dans son programme « Moi, je referai un traité, puisque celui-ci a été rejeté, moyennant quoi ils nous ont vendu exactement la même chose que le TCE, ou à peu près. Hein, » Et lui avait au moins l'argument de dire « Écoutez, je l'avais dit, hein, donc j'ai été élu et assez largement. » Donc oui, Alexis a raison, s'il est réélu, revalider ce mandat-là, autour, en disant, sans dire le contenu, bien évidemment, parce que Sarkozy ne m'avait pas dit le contenu. Et je pense qu'il va faire une campagne très à droite, mais sur la sécurité, sur l'identité, sur le régalien, etc. Il va fortement. Moi, j'ai un petit indice. Allez, je vais faire une provocation, Valérie. Je vais faire une provocation.
Ça m'étonne de vous.
c'est que... J'ai appris que Wauquiez n'était pas candidat.
Oui, ah bon ?
Ah, il n'est pas candidat.
Bon, c'est pas un scoop, ça.
Parce qu'il sera Premier ministre. Si Macron est réélu, il aura fait une campagne de droite, il prendra, puis il aura besoin des LR. Je rappelle que les législatives seront assez tard.
Hein. On peut prendre les
paris. Attendez, ouais. J'ai pas fini ma proposition. Avant de la discuter ou de la rejeter, il faut l'entendre en entier. Là, donc, il sera Premier ministre parce que, bon, en plus, il faudra peut-être le soutien de LR au plan législatif, etc. Parce qu'il y a 3 mois hein, entre la présidentielle et les législatives. Hein.
Non, c'est beaucoup plus court.
Je croyais que c'était fin juin.
Les élections, c'est le 12 et 19, il me semble.
Deuxièmement, si Marine Le Pen est élue, parce qu'on n'échappera pas au match retour, hein, tous ceux qui sortent, tout ça. Aujourd'hui, valeur du jour, bien évidemment que ces deux-là sont devant, on aura donc le match retour. Si Marine Le Pen l'emportait, elle ne peut pas gouverner toute seule, etc. Donc, elle solliciterait les LR et Wauquiez serait Premier ministre de Marine Le Pen, comme il peut
être ministre. Dans les deux cas, il n'est
pas Éric Ciotti.
Il ne joue pas dans la même cour. Hein, la même cour.
Régis, t'as pris un café avec Madame Soleil quand
C'est un peu ça, écoutez, jeunes gens.
Parce que là, c'est un peu de la politique fiction.
On verra. Pourquoi je pense qu'il va faire une campagne très à droite. Je pense que, et c'est l'ambition de Wauquiez, c'est pour ça qu'il ne veut pas être président ce coup-ci.
Lucas Jakubovic.
Oui, deux choses. Vous êtes journaliste politique. Pour Régis.
C'est une provocation.
La première chose, dire qu'Emmanuel Macron va faire une campagne en s'axant sur la sécurité. Bonjour le scoop. C'était le cas en 1995, c'était le cas en 2002, c'était le cas en 2007, c'était le cas en 2012.
Ils sont tous là-dessus.
Tout le monde fait campagne sur la sécurité, même si sur le fond, rien change, c'est vraiment l'élément obligatoire. Après, sur Wauquiez, Premier ministre, pas Premier ministre, alors, il faut être vraiment très très prudent, on est à moins d'un an de la présidentielle, on ne sait même pas qui sont les candidats, qui va sortir de la primaire, etc. Je rappelle juste qu'il y a un peu moins
en aura une.
De 2017.
C'est même pas si on en aura une.
Enfin, personne n'avait prévu que Macron l'emporterait. Donc la politique fiction, c'est bien pour
faire parler. Ça ne se reproduira jamais, ça.
Je ne sais pas, mais c'est bien pour parler, c'est bien pour faire de l'audience. Mais après, je trouve qu'il vaut mieux s'axer sur le fond des programmes, sur l'état de l'opinion, plutôt qu'essayer de dire celui-ci se place. Alors en vrai, on n'a aucune preuve tangible.
Non.
Et quand bien même on en a, c'est des hommes politiques qui nous disent du off, du off, du off, du off, pour qu'on reprenne leurs intérêts. Et voilà.
Ouais, c'est
faut faire
ça.
Gaffe. Quoi.
Mais là, oui.
Moi, je vais juste répondre à David ce que le président a dit quand même. Il y a quand même un élément important, c'est que pour que cette réforme elle se fasse, il y avait deux indicateurs, c'est une reprise économique et une maîtrise de la situation sanitaire. Voilà, donc aujourd'hui, on n'est pas là du tout. Donc ça, c'est deux indicateurs qui permettent de se dire est-ce qu'on pourra avancer cette réforme ou pas. Et ça, c'était vraiment les mots qui ont été dits, mot pour mot. Et je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut bien s'attacher sur ces mots-là qui donnent un cadre et une direction.
Direction, mais on n'a pas d'idée du timing.
Ah, écoutez, aujourd'hui, En termes de crise sanitaire, vous savez qu'on va siéger cet après-midi pour les pays ultramarins. Donc automatiquement, on va continuer dans l'état d'urgence pour les pays ultramarins. Donc la reprise économique, elle pointe le bout du nez. Mais aujourd'hui, je pense que les deux ne sont pas réunis.
Bon, bah écoutez, on va conclure ici. Un mot quand même sur l'hommage rendu par le journal Le Monde à Belmondo. La démagogie sécuritaire n'est pas absente de nombre de ses films policiers. L'humour avec lui ne vole souvent pas très haut. On ne sait plus s'il est un bon acteur. Il l'est, tout de même, il lui concède ça. On sait qu'il exécute lui-même ses cascades. On va lire le papier en entier, mais en tout cas, rien que cette petite phrase.
Je risque pas de le lire,
la
bon,
démagogie sécuritaire, voilà, c'est... et là, c'est pas une blague, hein, c'est pas du... C'est du woke pur et dur.
Au Monde.
Oui.
Ok.
Non.
On est tous surpris, je pense.
J'en sais rien.
Faut voir l'article en entier, Valérie.
Oui, faut voir. Mais déjà la phrase sur la démagogie. Enfin bref. Allez, merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est André Bercoff qui sera avec
vous. On attend Télérama et les Arocs. Allez,
merci. Au revoir.